Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Père Céleste, nous ne voulons pas être sourds à ta parole, nous ne voulons pas être sourds à ce que tu nous dis. Mais encore ce matin, nous te prions, Seigneur, de nous donner cette capacité de recevoir, de méditer et de mettre en pratique. Notre nature voudrait, Seigneur, bien évidemment, agir comme elle a toujours fait, de manière charnelle. Mais ce n'est pas notre chair qui doit entendre et agir, mais Seigneur, c'est notre esprit qui doit se soumettre à ton esprit. C'est notre âme, Seigneur, qui doit répondre, Seigneur, à la volonté qui est la tienne, Seigneur. Et que tout le reste, Seigneur, se soumette, Seigneur, de notre cœur, de notre vie, de notre être tout entier, se soumette à ta volonté, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de laisser notre chair être celle qui agit et qui réagit. Fais de nous des hommes et des femmes spirituels, dotés, Seigneur, de discernement, de sagesse, mais aussi d'humilité. Seigneur, merci encore pour ta parole, qui encore ce matin, Seigneur, continue de travailler nos cœurs pour nous rendre semblables à toi. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Ce matin, j'aimerais avec vous partager une pensée sur le fait d'être des porteurs de la parole de vie. La parole de Dieu nous enseigne à être de ces porteurs. Vous avez cette image de ceux qui travaillaient sur les chantiers et après, il y avait des personnes qui étaient là pour amener de l'eau. Donner à boire à ceux qui travaillent. Dans ce monde, les hommes ont besoin de la parole de vie. Ont besoin de cette parole qui vient changer leur existence. Notre monde est un chantier à ciel ouvert. Notre monde est un chantier parfois de démolition. Et il n'y a que Dieu qui puisse reconstruire. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions aborder ce sujet parce qu'il y a différentes choses qui ont interpellé mon cœur dans la lecture de ce texte. Et je me suis rendu compte, bien évidemment, on le sait, mais la tâche n'est pas facile. Mais Dieu est là. Amen. Alors que ta semaine peut-être a été compliquée parce que tu as fait face à des difficultés, tu as fait face à des personnes qui n'ont pas voulu entendre la parole de vie, le Seigneur t'encourage ce matin à continuer. À persister, à laisser le Seigneur faire son œuvre dans ton cœur, dans ta vie, mais aussi dans le cœur et la vie de ceux à qui tu as proposé la parole de vie. On ne peut pas obliger, que Dieu nous garde d'obliger qui que ce soit, n'est-ce pas? On ne peut que tendre la parole, la partager, mais après il faut que la personne accepte de la prendre comme une nourriture spirituelle qui agira dans son cœur et dans son âme. J'aimerais faire avec vous cette lecture dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 12 au verset 18. C'est l'apôtre Paul qui écrit, et il dit ceci, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je sers de libation, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis. et je m'en réjouis avec vous tous, vous aussi. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Paul, il nous parle de quelque chose qui Dieu opère en nous, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il est important pour nous de saisir que dans la manière où Dieu va agir, il va accomplir une œuvre dans notre vie. Il nous donne et il met en nous le désir, le vouloir et le faire. Mais nous ne pouvons ni vouloir ni faire la volonté de Dieu si nous restons dans notre conception, dans notre vision charnelle. Parce qu'avec ce que nous avons appris du monde, nous risquerions de vouloir servir Dieu avec des vieux mécanismes qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Et on a besoin finalement de vivre un changement et être cet homme nouveau que Dieu souhaite, que Dieu veut. Et il y a un renouvellement qui doit se faire dans notre cœur. Ce vouloir et ce faire doit être le résultat d'un renouvellement, d'une transformation que Dieu opère dans nos cœurs. Combien de fois nous avons peut-être essayé de servir Dieu, oui, avec nos capacités, nos qualités, c'est bien mon frère, tu as des capacités, tu as des qualités, c'est Dieu qui te les a données, mais elles ont besoin d'être purifiées, sanctifiées. Parce que malheureusement, le monde a conditionné ton cœur et ton âme à agir selon la vision du monde. Et qui est celui qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Et on ne peut pas servir Dieu avec les principes et les fonctionnements que Satan voudrait. Parce que son but, c'est celui de finalement empêcher que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Et que tu le veuilles ou pas, tu pourrais toi-même devenir, malheureusement, un obstacle. Par tes conceptions, par tes considérations, qui n'ont rien de spirituel, mais qui sont charnelles. Alors comment être renouvelé? La première chose, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 51, verset 12, qu'il est question de renouvellement par la prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que c'est notre prière? Est-ce que c'est notre désir? De dire, Seigneur, oui, je veux te servir, mais Seigneur, dans mes conditions, telles que je suis aujourd'hui, je vais faire des dégâts. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas, mais c'est le premier pas pour un changement qui se produit jour après jour. C'est une transformation que Dieu opère dans nos cœurs, puisque Dieu veut nous amener à être une nouvelle créature. Vous connaissez le texte dit, voici, pour ceux qui sont en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ces choses, elles se font à fur et à mesure que nous laissons de côté notre ancienne vie pour prendre cette nouvelle vie. Du moment que nous laissons le Seigneur renouveler nos cœurs, nos pensées, nos actions, si avant on agissait de manière violente envers ceux qui nous disaient quelque chose qui ne nous plaisait pas, aujourd'hui le Seigneur nous demande de prier pour eux, prier pour ceux qui vous persécutent. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, hein, je vous assure. Tu me persécutes, je te rends la vie difficile. Tu lèves un doigt, je te lève les deux mains. Comme ça, c'est clair, net et précis. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? C'est comme ça que je sers Dieu? En imposant les mains de droite à gauche? C'est pas ça. Donc j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être changé, j'ai besoin d'être renouvelé et que Dieu mette en moi un esprit bien disposé. Parce que ce que Dieu peut me demander n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Ça vous est déjà arrivé de demander à quelqu'un de faire quelque chose et vous l'avez senti tout de suite? Ça passe pas. Vous lui demandez de faire, est-ce que tu peux faire ça? Et vous le sentez, il est... Et vous avez dans la parole de Dieu cette histoire de cet homme qui a deux fils et qui dit au premier, va travailler dans le champ. Oui, père. Mais il n'ira pas. Combien il y en a qui disent oui? Veux-tu servir le Seigneur? Oui. Et prêt-tu à y aller? Non. Et le deuxième, il dit non. Par contre, il dit la parole de Dieu. Après, il se leva et il y est allé. Peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, il y a des choses qui te font dire non parce que tu ne te sens pas à l'auteur. Te font dire non parce que tu regardes autour de toi et tu te dis, ben les autres, ils sont encore mieux que moi, Seigneur. Regarde, il est bien, lui. Ah, Seigneur, envoie-le. je t'envoie. Vas-y, je suis avec toi, je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Si Dieu te parle à toi, lève-toi et marche. Si Dieu, c'est à toi qu'il s'adresse, fais confiance à Dieu parce que s'il t'envoie, il pourvoit. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose et que tu te soumets à sa volonté, que tu agis selon sa volonté, ça veut dire que tu dois accepter aussi que tu ne feras pas comme tu veux, mais tu feras comme il veut. Et ce changement d'orientation ne peut se produire que par un changement de l'état d'esprit. Dieu donne-nous un esprit bien disposé. Le deuxième agent qui agit pour le renouvellement de notre vie, c'est la foi. Il est question de renouvellement de la foi. En Ésaïe chapitre 40, verset 31, il dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Oh, combien de fois on se lève le matin, on se dit « Je suis déjà fatigué avant d'avoir commencé, vivement ce soir. » Heureusement, vous ne le dites pas. Hein. Ou vous ne le dites plus. Mais la question, c'est pour nous, finalement, d'avoir un renouvellement dans notre foi. Pourquoi ? Parce que nous, on met notre espérance dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui renouvelle nos forces. Je ne compte pas sur mes forces personnelles pour accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'autrement, ben écoutez, il y a quoi de miraculeux là-dedans ? Le Seigneur pourrait simplement avoir une entreprise. Et il prend des hommes et des femmes, il les paye. Vas-y, fais ça. Dieu aurait pu le faire, hein ? Non ? Oui ou non ? Mais finalement, il a besoin d'hommes et de femmes qui marchent par la foi, non pas par la vue. Il est question de renouvellement pour être comme cet aigle qui s'élève et qui laisse les courants le porter, se laisser porter par Dieu, se laisser conduire par Dieu, qui court et ne se lasse pas, parce que le chemin, il est long. Servir Dieu, ce n'est pas l'histoire de 5 minutes, 10 minutes. C'est quelque chose qui va demander du temps jusqu'à quand le Seigneur te dira « Maintenant, tu passes à une autre tâche. » Et il dit « Ne se fatigue pas et ne se lasse pas. » Ah, la lassitude. Je crois qu'il y a, après la période Covid, il y a une forme de lassitude qui s'est installée. On aime tous rester bien tranquille à la maison, non ? On aime bien finalement passer du temps à la maison dans le calme, le tranquille, ou vaquer à tout ce qui nous fait plaisir. Les sorties, les ceci, les cela. Parce qu'on a l'impression que d'un jour à l'autre, quelqu'un pourrait tout à nouveau nous enlever cette liberté que nous avions de bouger, faire ce qu'on veut. Mais il est question pour nous de considérer que les temps dans lesquels nous vivons sont des temps qui vont devenir de plus en plus difficiles et que nous avons un temps qui est limité dans lequel nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. Et pour le faire, nous avons besoin de la force de Dieu parce que la tâche qui est devant nous est grande. Mais nous avons un grand Dieu. Nous avons le Dieu de l'impossible. Nous avons le Dieu qui agit et qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin pour que nous ne soyons pas fatigués, que nous puissions courir et que nous ne soyons pas de ceux qui se lassent et qui s'arrêtent. Est-ce que tu es prêt à être renouvelé ce matin dans la foi ? Mais il est question aussi d'agir par la foi. Mets ta foi dans le Seigneur. Ceux qui espèrent en l'Éternel, c'est là que ça commence le renouvellement. C'est pas dans le pasteur que tu dois mettre ton espérance. Hein. Non, non, ça serait une erreur. Je ne peux rien pour toi, tu ne peux rien pour moi, mais le Seigneur peut tout pour nous. On peut s'encourager, on peut même peut-être se passer un peu de vitamine, hein, jus d'orange. Il dit, allez frère, vas-y, un mot d'encouragement. Vas-y ma sœur, lâche pas. Mais celui qui te renouvelle, c'est le Seigneur. Alors mets ton espérance, mets ta foi en lui. Troisième chose, c'est le renouvellement par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle nos cœurs. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Il nous dira ceci, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Vous avez vu, ce n'est pas quelque chose de n'importe comment. Sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés, comment ? par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Lorsque on parle d'un projet, très souvent, on a tous notre idée d'accomplir ce projet. Quand on a une idée, on peut la mettre sur papier, mais tant que les autres ne l'ont pas saisie, peut-être qu'ils peuvent l'interpréter autrement. Mais ce matin, ce n'est pas question de tes projets ni les miens. C'est la question des projets de Dieu. Quels sont les projets de Dieu ? Vous savez, vous regardez dans la parole de Dieu, il y a eu souvent des situations où une partie du peuple n'a pas compris les projets de Dieu. Ça arrive. La parole de Dieu nous dit qu'un arbre se reconnaît à ses fruits. Prenez, lorsque Moïse se présente auprès du peuple d'Israël, ils sont en Égypte, ils sont en captivité, ils vivent l'esclavage. Ça fait 400 ans que ça dure. Je dirais même qu'ils se sont, entre guillemets, installés du mieux possible. Et là, il y a un homme qui vient et qui leur dit, voilà, Dieu m'envoie pour vous sortir d'Égypte. Est-ce que vous pensez que tout le monde a applaudi en disant, ouais, vive Moïse ? Certainement, certains se sont dit, attends, il arrive d'où celui-là ? Et d'ailleurs, lui s'est posé la question, il dit, Seigneur, si il me dit, qui c'est qui m'envoie ? Qui dois-je lui dire ? Et lorsque finalement Moïse est allé parler à Pharaon, vous savez très bien que Pharaon, il n'a pas dit oui tout de suite. Il a fallu que Dieu ébranle la vie et le royaume de Pharaon, jusqu'au point finalement que Pharaon y perdra sa vie, parce qu'il s'entête contre Dieu. Faisons attention à nous entêter contre Dieu. Parce qu'il n'est pas question forcément de mort physique, mais de mort spirituelle, certaine, oui. Refuser la volonté de Dieu, refuser ce que Dieu nous propose, finalement, nous jugeons nous-mêmes notre vie pour la mort et pas pour la vie avec Dieu dans le ciel. Nous prenons une décision et Dieu la respecte. Tu as décidé de ne pas vivre avec moi pour l'éternité. Ok, très bien. Tu as une éternité qui t'attend, mais c'est dans la peine et la souffrance avec un locataire qui est difficile à vivre, Satan. Et c'est la réalité. C'est la Bible qui en parle. Et finalement, même lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils sont arrivés devant le premier obstacle et pourtant ils étaient suivis pendant le jour et pendant la nuit d'une colonne, une nuée. Ils arrivent devant le premier obstacle. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Où est-ce que tu nous as ramenés? On pouvait mourir tellement bien en Égypte. D'ailleurs, c'était déjà programmé. Et peut-être que nous-mêmes, lorsque Dieu nous demande quelque chose, dès qu'on a le premier obstacle, « Seigneur, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela ?» Et heureusement que Moïse y reste attaché au Seigneur, parce que dans sa vie, il a vécu un renouvellement, parce que Dieu a enlevé pas seulement Moïse de l'Égypte, mais il a enlevé l'Égypte du cœur de Moïse. Dans la lettre aux Hébreux, il est écrit qu'il refusa, il renonça d'être appelé « fils » de la fille de Pharaon pour servir Dieu. Sommes-nous prêts aussi à renoncer à des choses pour servir Dieu ? Et finalement dire, Seigneur, non pas ma vision, mais la tienne. Et le texte, il nous parle donc de la direction de l'Esprit qui vient et qui nous transforme, il renouvelle notre intelligence afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu, pas les tiens. Peut-être tu ne comprendras pas pourquoi Dieu te demande de faire ça comme ça. Mais tu le comprendras quand Dieu aura accompli son œuvre. Tu le comprendras lorsque Dieu fera son miracle. Tu le comprendras lorsque Dieu aura agi pour te montrer qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. N'est-ce pas ? Quand Moïse leva le bâton pour que la mer Rouge s'ouvre, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le saviez, vous, avant ? Vous l'avez réalisé quand ? Après que ça se soit passé. Hein. Il y a des choses qu'on ne réalise que lorsque le Seigneur les accomplit. Mais par la foi, il nous demande d'avancer.
Et lorsque le peuple d'Israël, après 40 ans d'errance dans le désert à cause de leur désobéissance, arrivera au moment où il va falloir passer l'autre côté pour entrer dans la terre promise, là encore une fois, il y a un gué, il y a de l'eau, ça bloque. Et Dieu dit, préparez-vous, sanctifiez-vous, prenez du temps, placez votre cœur devant le Seigneur. Et lorsque dit la parole de Dieu, lorsque les sacerdotes ont commencé à arriver près de l'eau pour ce qui ramenait l'arche de l'Alliance, là, Dieu sépare l'eau et ils vont rester là au milieu, attendre que tout le peuple passe. Les solutions de Dieu. Je ne sais pas par où tu passes, mais l'important c'est que tu passes là où Dieu veut que tu passes. Et si même pour toi il y a un obstacle devant toi, dis-toi que Dieu est capable d'ouvrir pour toi un chemin qui n'existait pas avant et qui n'existera plus. C'est un chemin unique. C'est pour toi. Amen. Dieu opère en nous, dit Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquez mes ordonnances. Nous avons besoin que Dieu opère en nous cette œuvre de changement de cœur pour que finalement l'Esprit de Dieu nous amène à suivre les prescriptions et observer et pratiquer sa parole. Sans le Saint-Esprit, nous nous égarons. Nous suivons le Seigneur de manière intellectuelle. Alors de manière intellectuelle, 2 plus 2, ça fait ? Très bien. Vous êtes fort. Connaissez-vous la loi de... Si vous essayez de marcher sur l'eau, ça marche. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi la loi? Quelle loi? Qui a établi que je ne peux pas marcher sur l'eau? J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Mais j'aimerais connaître celui qui s'est dit le premier, tiens, je vais faire une loi. On ne peut pas marcher sur l'eau. Parce que dans la parole de Dieu, il me dit que Jésus, lui, il a marché sur l'eau. Donc les lois que nous pouvons établir et qui ne sont pas fausses, scientifiquement, spirituellement, n'ont plus le même pouvoir. Lorsque Dieu fait que par la prière, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir des milliers de personnes, dites-moi si dans la logique est-il possible. Parce que si vous vous dites oui, c'est possible, dans la logique humaine, moi la semaine prochaine, je vous invite tous avec quelques pains et quelques sardines. Par contre, en rentrant à la maison, vous ne faites pas un deuxième repas et vous ne vous arrêtez pas au fast-food. Parce qu'il y en avait des restes à la fin. Par contre, si Dieu pose sa main, le pain est multiplié, les poissons sont multipliés, la pêche est miraculeuse, les malades sont guéris, les cieux sont ouverts, le temps s'arrête, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous marchons non plus selon le regard qui est le nôtre, mais avec un cœur nouveau. Est-ce que ce matin, il y en a qui voudraient dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau? Parce que si tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu as besoin d'abord que ça commence par toi, le changement, dans ton cœur, dans ton âme. Alors le texte dit finalement que Dieu nous a placés dans une situation un peu particulière. Si vous regardez les versets 14 à 16, si on peut les afficher, il dit « Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans reproche. » Et il dira là « Au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, » portons la parole de vie. Ce sera pour moi un sujet de gloire, dira l'apôtre Paul. Alors je me suis dit en lisant ce texte, mais finalement, où est-ce que Dieu nous a placés? Où sont les chrétiens? Et le texte, il me dit qu'il nous a placés au milieu d'une génération corrompue et perverse parmi laquelle nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Alors j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. Et je me suis rendu compte que le psaume 57, versets 5 et 6, nous dit que Dieu nous a placés au milieu des lions. Regardez le texte. « Mon âme est parmi des lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire sur toute la terre. Que ta gloire soit sur toute la terre. Il était où le psalmiste ? Êtes-vous parmi des lions ? Vous comprenez bien que c'est une image. Je me suis couché devant eux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. Oh là ! Les discussions, les paroles que les uns et les autres peuvent avoir. On a l'impression de se retrouver devant des félins qui sont là pour nous attaquer. Dès que tu bouges, ils te dévorent. La première chose, au milieu des lions, c'est là que le Seigneur nous a placés. Qui dit amen ? Vous y êtes bien ? À l'aise ? Ils ont bonne haleine, les lions ? Deuxième chose, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lys au milieu des agents, et en effet ce mot veut dire épine, rance, buisson épineux. Dieu nous a placés au milieu des épines. C'est pas agréable d'être au milieu des épines. Pourtant, comme un lys, quelle belle fleur le lys, non ? C'est une belle fleur. Et pourtant, si vous prenez la fleur par elle-même, elle n'a pas d'épines. C'est pas comme une rose. Cette fleur, pour se retrouver au milieu des épines, en effet, elle est dans un terrain qui n'est pas le sien. C'est pas logique, c'est pas normal. Et pourtant, est-ce que Dieu nous place parfois comme une lys au milieu des épines ? Dans ton lieu de travail ? Dans ton quartier ? Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais dans ce quartier ? T'as vu ? C'est que des ronces, Seigneur. Et moi ici, comme un lys. Alors, tu n'as pas dit un lys, mais bon. Tu t'es dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as placé ici ? Parce que c'est là aussi que les enfants de Dieu doivent briller. On va plus loin ? Allez. Ah, le troisième, il est fort. Hein. Au milieu des scorpions. Ézéchiel, chapitre 2, versets 6 et 7. « Et toi, fils d'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, car tu as avec toi des ronces et des épines, et tu vas t'asseoir sur des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne t'épouvante pas de leur visage, car c'est une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car ce sont des rebelles. Mais toi, fais ce que je te dis de faire. Seigneur, tu vois, dès que je bouge, je risque de me faire piquer, c'est des scorpions. Alors je suis sûr que dans votre tête, déjà, vous avez pensé à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Non ? Et dites, Seigneur, tu vois, c'est compliqué parce que là, finalement, je me trouve dans une situation et tu me dis de leur dire, mais ils sont rebelles. Mais peu importe qu'ils soient rebelles, ils ont besoin d'entendre la vérité. Après, c'est leur décision, c'est pas toi qui les as condamnés. Parce que je vous rappelle que Dieu dira à ses prophètes, qui t'écoute et qui t'écoute pas, dis-leur. Autrement, leur sang sera sur ta tête. Que se passera-t-il si le jour qu'on arrive devant le Seigneur nous dit, tu vois, tel, un tel, un tel, il a été perdu parce que tu n'as pas parlé. Parce que tu n'as pas dit la vérité. Alors parfois, même les paroles que je peux vous prononcer depuis l'estrade, bien évidemment, je suis le premier concerné. Mais peuvent sembler dures, mais pourtant, si je ne vous le disais pas, le jour que je me présente devant le Seigneur, qu'est-ce que Dieu va me dire ? Ah, tu as été light. Tu as prêché un message édulcoré. Tu as dit ce qu'il voulait entendre. Dieu vous bénit tous. Sauf que la bénédiction, elle y est toujours à l'obéissance. Et aujourd'hui, sur Internet, vous trouvez plein de messages qui vous disent « Soyez bénis, 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 bénis. » Et vous dites « Mais pourquoi je galère ?» Parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas été dit que pour être béni, il faut obéir. Et tant que tu n'obéis pas, la bénédiction ne peut pas découler. Donc il est question, pour moi, personnellement, j'ai cette responsabilité et j'essaie de faire de mon mieux pour vous dire la réalité. Frères et sœurs, même si aujourd'hui vous avez l'impression d'être assis sur des scorpions, ce n'est pas la meilleure des chaises, ce n'est pas le meilleur des fauteuils, ça pique, ça gratte, mais c'est là que Dieu veut que tu brilles. C'est bon ? On continue parce que la panoplie, il y en a encore, hein. Luc chapitre 10, verset 3, il est question, il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Pas besoin de photos ? Hein ? La dernière est un peu mieux. Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dieu, parfois, nous place au milieu de l'ivraie. Vous connaissez l'histoire, non? Le mot ivraie, le mot de base, c'est zizanie. Parfois, Dieu nous laisse dans une situation où il y a de la zizanie. C'est compliqué. Et nous, on voudrait intervenir, dire, attends Seigneur, je vais agir, je vais faire, moi je vais enlever la zizanie. Mais Dieu ne te l'a pas demandé, il te dit, ne bouge pas. Tu risques d'enlever ce qui est bon avec ce qui n'est pas bon. Laisse, Dieu enverra ses anges faire le tri. Et je vous assure, il n'y a rien de la zizanie qui rentrera dans les greniers de Dieu. Et comme il n'y aura pas du blé du Seigneur qui terminera avec la zizanie. Amen. Alors, quelle grâce pour nous de dire, Seigneur, encore ce matin, oui, Seigneur, nous sommes ces chrétiens qui sont au milieu des lions, au milieu des épines, au milieu des scorpions, au milieu des loups, au milieu de l'ivraie. Peut-être vous avez choisi 1, 2, 3, 4, 5 options. À vous de voir. Vous dites, moi, j'ai la totale. J'en ai même quelques-unes que peut-être le pasteur a négligées ce matin. Je ne voulais pas non plus vous faire peur. Mais regardez ce qu'il va dire l'apôtre Paul, et c'est là que ça doit aussi nous encourager, parce que si on faisait que ce constat, on se dirait, Seigneur, mais pourquoi je suis devenu chrétien? J'avais moins de problèmes avant. J'étais le lion. J'étais le scorpion. J'étais le loup, parce que si vous vous rappelez comment vous étiez avant, forcément vous trouvez tout de suite quelque chose qui vous ressemble, non? Si quelqu'un vous touchait, vous étiez comme un lion, comme une lionne. Dans la nature, c'est les lions qui vont à la chasse. Les lions, ils attendent. Ils ont compris. Versets 17 et 18, l'apôtre Paul, il dit, mais réjouissez-vous. Ha ! Merci. L'invitation, elle est bonne. Merci. Mais il dira, réjouissez-vous, car en réalité, même au milieu de l'hostilité et des combats, nous sommes, Deux Rois, chapitre 6, versets 15 et 17, il nous dira que nous sommes au milieu de l'armée céleste. Regardez, Deux Rois, chapitre 6, versets 15 et 17. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux de son jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Ah là, c'est mieux. Hein. Ah, d'un coup, on commence à respirer. Seigneur, c'est vrai, il y a tout ça, mais... Alors peut-être que ce matin, tu as besoin que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dans l'épreuve que tu vis, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Dans la difficulté que tu vis, dans le conflit que tu vis, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Laisse le Seigneur te montrer tout ce qu'il a mis en œuvre pour t'assurer son salut. Et tu te dis, mais Seigneur, je suis entouré de l'ennemi. Regarde, ils ont pris de la place pendant la nuit, ils ont profité, ils se sont installés, ils sont venus avec des chars, des chevaux, Seigneur. Regarde quelle grande armée. Mais celle que Dieu a placée, est bien plus grande que toute l'armée qui a essayé de t'empêcher d'avancer. Et Dieu soit béni pour des hommes comme Élisée, qui ont eu cette attitude de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, et en plus, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur. Qui veut être comme le serviteur? Moi, je préfère être comme Élisée. Hein. Mais béni soit Dieu, parce que Dieu a changé le cœur aussi du serviteur. Et si ce matin tu es avec le doute, tu es venu avec cette crainte, tu as vu des choses et cette crainte s'installe parce que tu entends à la télévision, au journal, plein de choses qui pourraient te mettre la peur, moi je voudrais te dire, place ton regard dans le Seigneur, il te montrera qu'il tient le monde entier entre ses mains. Lisez la parole de Dieu, il n'y a rien qui se produit que la parole de Dieu ne l'ait pas écrit. Hein. Dans les derniers temps, vous entendrez bruit de guerre, non ? On parlera de paix, mais la paix, il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en plein dans tout ça? La réalité, elle n'est pas là. Et donc, la parole de Dieu nous dit finalement de placer notre confiance en Dieu. Parce que celui qui va venir, c'est celui qui va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il va mettre la fin à la guerre. Amen. Gloire à Dieu. Mais si on est de ceux qui partent en courant, mais ça veut dire qu'on n'a rien compris. La place qui est la nôtre est celle d'être de ceux qui brillent. On va y revenir sur ça. Alors si nous sommes au milieu de l'armée céleste, il y a une deuxième chose à retenir. Et le psaume 125, verset 2 dit « Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. » Moi je dis « Seigneur, merci parce que tu entoures toi-même ton peuple. » Mon frère, ma sœur, quelle qu'il soit la difficulté que tu vis, tu es au milieu de l'armée céleste et Dieu t'entoure. Ça va mieux ? Soulagé ? Amen. Mais pour le voir, tu as besoin de passer par le renouvellement. Tu as besoin d'accepter, de prendre du temps dans la prière, accepter que le Seigneur te fasse vivre par la foi, accepter que le Seigneur t'encourage finalement à vivre par l'Esprit de Dieu. Alors on pourrait dire, avec ça on s'arrête, c'est bien. Mais il y a un point que je n'ai pas traité, c'est le verset 12, et je voudrais clôturer avec ça, qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » On pourrait se dire, mais attends, moi le salut je l'ai obtenu, je n'ai plus rien à faire. Mais la Bible te dit que ton salut doit être en action. Moi j'ai cette image qui m'a toujours parlé, c'est celui qui est en train de se noyer, à qui on lance une bouée, on le sort de l'eau, et il y en a encore plein qui sont dans l'eau, qui sont en train de se noyer. Il a deux choix. Ou tu te dis « je suis sauvé » et tu pars, ou tu te dis « maintenant que je suis sur le bord, je vais aider les autres à sortir de l'eau ». Et là, le texte te dit finalement de mettre en action ton salut. Alors, on va terminer par ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10, qui encore une fois nous place au milieu de choses qui peuvent être difficiles, mais qui nous disent que nous devons encore, par la grâce de Dieu, accomplir. Et il dit, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut, c'est maintenant. Pendant les difficultés, pendant les épreuves, pendant les conflits, pendant les craintes, pendant les peurs, nous ne nous donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards, recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de persévérance dans la tribulation, dans la privation, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les hommes, les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Alors si je reviens au texte que nous avons lu, il est question pour nous, frères et sœurs, d'être des porteurs de vie. Et j'aime cette parole qui nous a été donnée au verset 15 pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Est-ce qu'on est prêt à être des porteurs de vie ? On ne peut pas porter ce qu'on n'a pas reçu. Et ce matin, si quelqu'un a besoin de vivre cette transformation, Dieu est fidèle et bon pour le accomplir dans ton cœur et dans ta vie. Pour que tu ne vois plus les choses qui sont autour de toi avec le regard que tu avais avant. Bien évidemment, si je regarde aux informations avec ce que je pouvais comprendre avant de la parole de Dieu, je me dis « Oh là 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 là, je vais me construire un bunker. » On a vécu près de la Suisse pendant quelques années. Là où je travaillais, il y avait des bunkers. Vous savez qu'en Suisse, ils ont construit des bunkers à cause des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les bâtiments étaient obligation d'avoir un bunker en dessous. Alors, il y a des aliments, il y a tout ce qu'il faut, avec des portes blindées. Mais tôt ou tard, tu dois te sortir ton bunker. Et si tout est rasé, tout est détruit, tout est pollué, tu vas faire quoi? Ton masque à oxygène, il va durer combien de temps? Tes boîtes de conserve, elles vont durer combien de temps? Et après, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Ça, c'est les solutions des hommes à court terme. Dieu a une solution à long terme. Pas besoin de bunker. T'as Jésus. C'est ta protection. Pas besoin de manger des faillons en boîte. Ah non, Seigneur a prévu pour nous un repas des fêtes. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Mais pour cela, on a besoin de dire, Seigneur, fais que ta vie vienne en moi et que je puisse être un porteur de vie. On va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage encore ce matin, Seigneur, à ne pas rester, Seigneur, immobile ou insensible à ta parole, à ta volonté, mais que nous puissions, Seigneur, être ce peuple qui apporte le message de la vérité, qui amène le message de la vie, qui partage, Seigneur, cette espérance qui est dans l'Évangile. Seigneur, peut-être que nous sommes encore maladroits dans notre manière de le faire. Nous ne savons pas nous y prendre, Seigneur. On a encore, Seigneur, des anciens réflexes. On croit que, Seigneur, il faut faire ainsi ou ainsi. Oh, Seigneur, renouvelle nos cœurs ce matin. Renouvelle, Seigneur, en nous, Seigneur, notre vie. Renouvelle notre esprit pour que nous puissions le faire avec sagesse. Pour que nous puissions, Seigneur, avec la direction du Saint-Esprit, Seigneur, être porteurs d'un message d'espérance. Seigneur, ce n'est pas par la peur qu'on doit s'approcher de toi, mais parce que tu es le Dieu de la vie. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, par les craintes que nous pouvons finalement apprendre à t'aimer, mais c'est en connaissant et en apprenant et en vivant ton amour, Seigneur, que tu génères en nous un amour véritable qui n'a pas, Seigneur, qui n'a rien de comparable dans ce monde. Seigneur, merci encore parce que par ta bonté, Seigneur, c'est vrai, tu nous as placés dans une situation compliquée. Tu nous as envoyés comme des agneaux au milieu des loups. Mais Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours. Seigneur, merci d'ouvrir les yeux des uns et des autres ce matin, Seigneur. Je te prie pour ceux qui sont accablés par les épreuves qu'ils vivent, Seigneur, et qui ce matin, en entendant, Seigneur, ces textes, se sont dit, mais Seigneur, c'est vraiment ça que je vis. Alors je te dis, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, ouvre-leur les yeux, qu'ils puissent voir, Seigneur, ton armée, mais qu'ils puissent surtout voir que c'est toi qui nous entoures, Seigneur. Ta protection est grande et merveilleuse, Seigneur. Seigneur, donne-nous de briller. Donne-nous, Seigneur, d'être ce peuple qui éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres. Et que ta lumière, Seigneur, ta lumière seule resplendisse. Père, nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Pendant que les musiciens